Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 2. Tipière était le dernier né des Bernard, qui l'avait eu aux limites de l'âge mûr pour réserver un peu de joie à leur vieillesse. Ils avaient espéré une fille cette fois-là, parce qu'une fille, on la garde près de soi et qu'elle ne va pas courir les océans. Mais ce fut un garçon, le cinquième, qui parut bientôt tout blond et bouclé par la grâce de Saint Guinolé, dont c'est le privilège de friser les enfants des femmes qui lui piquent une épingle dans le pied en faisant leur prière. La mère Bernard n'avait jamais manqué, à chaque grossesse, d'apporter son épingle aux orteils du vieux saint de bois qui orne l'église du village. Et, comme il avait fini par l'exaucer, elle disait avec une foi nouvelle « Sans doute qu'auparavant, j'avais point mis dans la bonne place. » Les autres gars, en effet, arboraient des cheveux bruns et plats. Florent, le cadet, et Eugène, l'aîné. Maintenant que Dominique et Augustin, les deux qui portaient les noms du père, étaient morts. Tous deux ont péri à la mer, il y a déjà du temps, alors qu'ils étaient beaux et jeunes. Il ne reste plus d'eux que des photographies qui jaunissent sur la cheminée. Dominique, en matelot, accoudé à un prie-dieu, Augustin, avec une encre à ses pieds. Ce sont des gars solides, larges d'épaules, la moustache conquérante, l'air satisfait. Ils ont de beaux cadres en coquillage, et près d'eux, il y a des boules en verre, deux petits trois-mâts et les bouquets en papier gagnés au tir des foires. De chagrin, la mère Bernard avait supplié son Eugène de rester près d'elle quand il voulut quitter la pêche pour le long cours. Il eut pitié, d'abord, remit son départ, puis s'embarqua un jour parce qu'il avait l'imagination pleine des histoires merveilleuses de ses frères et qu'il espérait gagner de l'or. Le père Bernard avait plaisanté les sentiments de sa femme en faisant le crâne. « C'est un homme, pas vrai ? Il est ben libre de naviguer à son gré. » Mais voilà que Florent venait de partir à son tour, appelé pour servir dans la flotte. Alors, comme il devait rejoindre à Lorient pour le garder près d'eux le plus longtemps possible, ils avaient été le conduire jusqu'à Pornic sur la chaloupe à Julien Perchet. La mère lui avait mis de bonnes chaussettes de laine, un maillot et trois chemises dans un mouchoir. Elle couvait son gars des yeux pendant la traversée et ne parlait que pour lui conseiller de prendre garde au froid, aux femmes, à la boisson. Perchet et ses hommes rigolaient en rappelant leur service. Mais le père Bernard ramenait toujours la conversation sur la pêche, qui est une chose sérieuse, parce qu'il ne voulait point s'attendrir et n'avait pas non plus le cœur à rire. À Pornic, ils prirent une tournée au café des caboteurs. Il faisait un joli temps d'avril. Le port était calme et sûr. Les hommes sentirent obscurément qu'ils ne devaient point aller à la gare. Son père et sa mère, seuls, accompagnèrent Florent jusque-là. Ils s'embrassèrent avec émotion. « Porte ben ton maillot, tes foulards !» répétait la bonne femme. Car toutes les mères ne songent qu'à sauvegarder la chair qu'elles ont faite. Le gars riait par respect humain et faisait des projets comme il est habituel quand on s'en va. Son père parlait de devoir et d'exactitude en se donnant en exemple. Le train siffla, partit. La mère Bernard courut un peu le long de la portière pour voir encore son Florent. Il agita la main jusqu'au tournant. Tout essoufflée, elle pleurait silencieusement sur ses rides, des larmes de vieux qui sont si douloureuses. Et Bernard la prit par le bras et l'entraîna. Ce fut chez eux seulement qu'ils sentirent le vide en revoyant le lit du gars, ses vêtements, sa pipe. Dieu, quelle était vaste la petite maison où ils avaient tenu 7 au temps où les 5 enfants se serraient là, bien en vie, près des parents. La mère en avait tué 2 d'abord, puis entraîner deux autres, et il ne restait plus que Petit Pierre, leur dernier, auquel les Bernard s'accrochèrent plus fortement en sentant la vieillesse leur peser aux épaules. « Il sera toujours pas marin, celui-là !» déclara la mère. Et le père ne répondit pas, parce qu'il pensait comme sa femme, mais qu'un homme ne doit jamais se montrer faible. Petit Pierre avait 10 ans, mais il en paraissait 12 par le développement de la taille et des membres. Son nez large et le menton de galoche qui allongeait sa figure lui mettaient au visage la marque des Bernard. Une cicatrice lui barrait le sourcil droit depuis qu'il avait plongé sur une ancre. Issachar, qui le ramassa ce jour-là, les yeux noyés de sang, l'avait cru aveugle. Au mépris de l'école, qu'il manquait le plus souvent possible, Petit Pierre galopait avec les goussepins du village, par le vent tonique et le soleil qui tanne. À mer basse, c'était des parties de pêche, la culotte troussée jusqu'aux fesses, des rafles de moules, de patelles, de palourdes, humées séances tenantes, toutes juteuses d'eau salée, des chasses aux crabes ou aux mulets, traquées dans les mares, empoignées et martyrisées avec des cris de victoire. À mer haute, c'était des embarquements à plein canot, des défis à la godille et les navigations hasardeuses des petits bateaux remorqués à la ficelle. Sa force et son adresse classaient Petit Pierre premier à la lutte et au jeu. Il levait les quartiers de roche sous lesquels sont tapis les tourteaux gourds et savait, comme d'un coup de bec, saisir à la pointe d'un couteau l'anguille furtive. Alors que les petits s'attelaient par deux aux lourds avirons de 15 pieds, il les maniait seul, orgueilleusement. Et, en se baignant tout nu dans la lumière, il aimait, par plaisanterie de maître, éclabousser les filles qui, le jupon ramassé entre les jambes, s'enfuyaient au bord de la mer à grand renfort de criaillerie. Profitant de ses loisirs, Bernard conduisit désormais son gars à l'école, qui est au-dessus de l'église, en haut du village, et fut le chercher le soir, vers 4 heures. Il fallait en finir avec la dissipation. Une surveillance s'imposait, à la fois pour le garder de mauvaises fréquentations et le distraire du port. Bernard institua des promenades congruentes. Mais quand ils allaient du côté de Noirmoutier, ils découvraient par-dessus le marais le large, au souffle plus âpre, et, quand ils se tournaient vers l'Herbaudière, la mer barrait encore la route à leur regard. Elle sertit la pointe étroitement. On la voit de partout, on l'entend sans cesse. Elle est verte, avec des transparences et des éclats qui se déplacent. On n'en aperçoit la fin que dans les nuages. Elle est immense, et l'on sent qu'elle a servi au loin la terre qu'elle baigne, jusqu'au tuf et jusqu'au cœur des hommes qui l'habitent. Petit Pierre ne pouvait point lui dérober ses yeux, qui couraient l'aventure après les barques, tandis qu'il questionnait le père. « V'là un tonnier, 10 pas !»« Et celui-là, où c'est qu'il va ?»« Oh, c'est-il loin qu'on pêche de la sardine ?» Bernard répondait par habitude, par goût sans doute aussi, et s'enfonçait dans les champs. Mais là, si Petit Pierre sautait les étiers, bousculait une barrière, écrasait des fèves qui pètent sous le pied, ou escaladait un tas de sel, son père l'admonestait en prêchant le respect de la propriété. Il fallait marcher sagement le long des chemins, sans gambader, crier, ni rien briser. Et Petit Pierre s'ennuyait ferme, parce que, comme tous les enfants des hommes qui sont bien vivants, il aimait à s'agiter et à détruire. Il attendait le retour et l'arrosage du jardin, dans quoi s'absorbait le brigadier, pour s'évader et courir se battre avec Colichon par manière de dédommagement. C'était son rival à tous les exercices, et il tirait de la fierté de ce que son père l'emmenait à bord du Secours de ma vie en qualité de mousse. Aussi bien traita-t-il Petit Pierre de capon le jour qu'on lui interdit la mer. Et la vengeance fut entre eux. Leurs batailles devinrent terribles. Ils se mirent en loques et en sang. Plusieurs fois, le brigadier dut intervenir et rentrer chez eux les combattants. « Tâche donc de garder ton gars, » dit-il à Olichon. « Ils vont se tuer !» Mais l'autre rétorqua sans trouble. « Ils n'en feront pas davantage. » Alors Bernard consigna son fils près de lui, au jardin. Petit Pierre fit naviguer des sabots dans le baquet, sous les rocailles, et le vida aux trois quarts, en simulant la tempête. Bernard jura. La mère s'interposa. Et Petit Pierre réclama les jouets que son père avait promis. « Je vais pu en canot, et tu me les as pas donnés. »« C'est ben vrai qu'il a rien pour s'amuser, » dit la bonne femme.
« Je vas t'en faire, je vas t'en faire !» cria Bernard.
« Quoi ? Dis, quoi ?
Ah, tu verras !»
Le soir, quand Pierre fut couché, la mère dit « Lui fais pas un bateau, toujours !»«
Sois tranquille !» répliqua Bernard d'un air entendu.
Mais le lendemain, il alla consulter les vieux sur la cale parce qu'il ne savait que faire. Et tous ensemble, le pilote, Ourtin, Tonnerre, n'eurent qu'une seule et même idée.
« On va lui tailler un bateau !»
Il ne pensait, comme tous les marins, qu'à la barque, qu'à façonner en petit cette chose téméraire et belle qui a contenu tant de leur existence. Le bateau est le jouet de leur instinct, au même titre que, pour la fillette, la poupée, qui représente le fruit futur de sa chair féconde. Seulement, chacun, raidi dans sa routine, ne voyait que le bateau de ses navigations. Ourtin préconisa le trois-mâts, Clémotte le côtre, Tonnerre le canot. Ils comprirent avec peine qu'il fallait chercher ailleurs. Et Tonnerre, qui a sauvé 130 vies humaines, proposa un lance-pierre en disant « C'est rigolo et ça tue bien !» Petit Pierre eut l'engin confectionné avec une fourche en bois choisie dans des fagots. Il s'exerçait, du matin au soir, à mitrailler des carapaces de cancre qui volaient en éclats sous le caillou. Bernard le conseillait, rectifiait son tir et confiait, par exclamation, sa fierté à la mère.
« Oh, qu'il est adroit le matin ! Ce sera un lapin !»
Elle relevait la tête, sans s'arrêter de tricoter, pour sourire avec satisfaction. Mais Petit Pierre se lassa de tuer des choses, parce que ça ne remuait pas, et il entreprit la chasse aux félins. À propos, la chatte de la mère Aquenette avait mis bas dans les tamaris de la cour. Il se tapit derrière la murette, et chaque fois qu'un museau pointait, un caillou sifflait. Le troisième jour, il toucha le petit gris qui tomba en secouant la tête et vagissant lamentablement. Mais quand il avança pour le ramasser, avec des cris de victoire, la chatte lui sauta au corps et lui déchira les mollets. Petit Pierre s'ennuya de nouveau. Il n'osait plus tirer les chats, et les chiens qui fuient avant le coup, la queue entre les jambes, n'étaient pas intéressants. Il y avait bien les carreaux de l'usine Préval qui le tentaient aux embrasements du soleil. Sans doute qu'ils éclateraient en étincelles, comme du feu, s'il tapait dedans. Bam ! Un fracas de vitres brisées, puis un trou noir. Petit Pierre avait tué le soleil et jubilait. Quand le gérant, arrivant à pas de loup par derrière, le saisit et lui appliqua des calottes. Il fut traîné à son père et se défendit.
« Ben, pourquoi que tu me laisses pas aller en canot ?»«
Parce que ta mère ne veut pas. »«
On lui dira pas. »«
Petit malheureux, tu veux tromper tes parents ?» Petit Pierre réfléchit, bouda, impénétrable. Bernard put le croire soumis les jours suivants. Mais, quand il pouvait, au sortir de l'école, il courait à l'Uséronde pour patouiller avec les mousses des sardiniers ancrées dans l'anse. Ou bien, il allait voir Tonnerre, les jours où la folie de la mer possédait le vieux baigneur.